accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. La manne pétrolière est-elle infinie en Norvège? Voilà des décennies que le pays exploite avec succès ses ressources en hydrocarbures, ce qui fait de lui certainement un des pays les plus riches de la planète, grâce notamment au fameux fonds souverain. Mais cette richesse ne durera pas éternellement et les chercheurs réfléchissent déjà à l'après-pétrole. C'est le reportage de Pauline Curté.
Au sein de son laboratoire de l'Institut pour les techniques de l'énergie, situé dans la banlieue d'Oslo, le français Julien Meyer se concentre depuis des années sur l'étude d'un gaz bien particulier, l'hydrogène. S'il y consacre sa carrière de chercheur, c'est parce qu'il est convaincu que le gaz pourrait, un jour, constituer une alternative plus propre au pétrole, notamment dans l'industrie automobile. De son laboratoire, Julien Meyer suit de près les décisions énergétiques, car la Norvège commence à envisager une vie sans pétrole.
On s'y prépare peut-être pas assez vite, mais on s'y prépare. Notre recherche essaie d'y répondre, mais il y a aussi beaucoup de recherches sur toutes les énergies nouvelles en Norvège, aussi bien le solaire que l'énergie éolienne. Bien sûr, ces nouvelles énergies vont engendrer des nouveaux marchés et donc la Norvège devra y répondre. La plupart des experts nous indiquent qu'on a déjà obtenu le pic de pétrole et que le pétrole et les carburants, peut-être pas le gaz naturel, mais en tout cas le pétrole et les carburants ne pourront qu'être plus chers. Donc si ceci se vérifie, c'est sûr que les énergies nouvelles deviendront compétitives.
Le problème en Norvège, c'est que le pays a atteint l'an dernier son pic de production pétrolière. À présent, exploiter pétrole et gaz va coûter plus cher. Sans compter que pour trouver de nouveaux gisements, les compagnies devront aller creuser dans des régions de plus en plus reculées. Heureusement, répond le gouvernement norvégien, l'exploitation du pétrole lui a permis de mettre beaucoup d'argent de côté. Plus de 500 milliards d'euros, soit plus de 100 000 euros par habitant, placés dans un fonds souverain pour d'éventuels jours difficiles. Une initiative unique au monde. Knut Anton Mork est économiste au sein de la banque scandinave Handelsbanken. Cet argent mis de côté ne le rassure pas du tout.
Si vous posez la question à n'importe quel politique norvégien, il vous dira que, bien sûr, il prépare l'après-pétrole, qu'il suffit de regarder le fonds souverain. C'est vrai, mais il ne se concentre pas sur l'essentiel. Le fonds souverain ne servira à rien si on ne prend pas en compte la baisse des recettes de l'État, l'augmentation des dépenses, le jour où il n'y aura plus de pétrole. Il faudra alors prendre des décisions difficiles, injustes, comme réduire les dépenses publiques.
Depuis plusieurs mois, les tribunes d'économistes ou d'experts se multiplient dans la presse internationale, s'alarmant du fait que l'État norvégien n'envisage que peu ou pas l'après-pétrole. Certes, on est à peu près certain que la production de matières premières durera encore des décennies, mais on sait aussi qu'un jour, elle cessera. Pour Truls Gulowsen, de l'association environnementale Greenpeace, la chute sera très dure.
Quand la Norvège a découvert le pétrole dans les années 70, le premier souci des politiques était que cette manne ne prenne pas trop de place dans l'économie. Ils ont mis en place des restrictions pour que d'autres industries, d'autres types d'emplois continuent d'exister. Mais ces 10 dernières années, ces précautions ont disparu. La société norvégienne est dépendante de cette manne pétrolière. C'est dangereux et irresponsable.
Sans compter que la fin de l'exploitation pétrolière en Norvège aura de très grosses conséquences sur l'économie mondiale. À l'heure actuelle, le Royaume nordique est le 7e plus gros exportateur de pétrole au monde et sa plus grosse cliente, c'est l'Union européenne.
Et en Allemagne, c'est l'après-nucléaire qui fait débat. D'ici 2022, les 9 derniers réacteurs encore en fonctionnement devront fermer et ce sont les énergies renouvelables qui devront compenser. Une évolution largement dictée par la catastrophe de Fukushima et qui recueille le soutien de la majorité des Allemands, mais le coût de cette révolution énergétique fait de plus en plus grincer des dents. Depuis Berlin, les explications de Julien Méchaussier.
Les objectifs inscrits dans le traité de grande coalition entre les conservateurs de la CDU et les sociaux-démocrates du SPD sont ambitieux. Entre 40 et 50% de part d'énergie renouvelable d'ici 2020, jusqu'à 60% en 2035. En plein boom, le solaire, l'éolien et la biomasse, sans oublier l'hydraulique, produisent déjà aujourd'hui plus d'un quart de l'électricité allemande, soit l'équivalent des 8 réacteurs déjà mis hors circuit. Un tournant énergétique qui a donc tout l'air d'être sur les rails, grâce notamment à une législation favorable. Conformément à la loi sur les énergies renouvelables, les consommateurs d'électricité paient une taxe qui permet de financer le prix fixe garanti aux producteurs d'énergie verte. Mais avec l'augmentation de la production d'énergie renouvelable, la facture d'électricité pour les Allemands s'est également envolée. Ce qui n'est pas le cas des gros industriels qui, eux, sont largement exemptés de cette taxe. Une exception confirmée dans la réforme du dispositif de subvention voté il y a quelques jours au Bundestag et qui vise à maîtriser les coûts du renouvelable. Pour l'opposition, les Verts en tête, cette réforme sonne le glas des espoirs d'un véritable tournant énergétique. L'autre objet de discorde est la forte augmentation des émissions de CO2, un paradoxe malgré la constante croissance des énergies renouvelables. En cause, la chute des prix des certificats de CO2 qui permet une production d'électricité particulièrement bon marché. Au lieu des 30 euros prévus pour une tonne de CO2 émise, les certificats se négocient aujourd'hui à environ 5 euros la tonne. Pas de quoi inciter les grands groupes énergétiques à tourner le dos au charbon, bien heureux ainsi de compenser les pertes liées à l'arrêt de leurs réacteurs. En plus de la gestion de la sortie du nucléaire, l'Allemagne fait donc face à un nouveau défi, la sortie du charbon, qui représente pas moins de 42% de sa production électrique.
En matière d'environnement, la Commission européenne ne manque pas d'ambition. Elle veut que tous les déchets sortis des poubelles des Européens soient recyclés d'ici à 2030. Cet objectif zéro déchet est-il vraiment réaliste, notamment pour certains pays qui ont pris la très mauvaise habitude de tout jeter à la décharge? C'est ce que nous explique chiffre à l'appui Daniel Vigneron, directeur du site d'information myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Le commissaire à l'environnement vient donc de présenter un programme dont le titre « Vers une économie circulaire, programme zéro déchet pour l'Europe » laisse assez perplexe. Qu'en est-il exactement ?
Alors en fait, c'est non seulement l'objectif zéro déchet de ce programme qui est ambitieux, mais aussi les moyens préconisés pour les atteindre. Yanis Potočnik, le commissaire européen à l'environnement, propose carrément, pour y arriver, de changer de système économique. Il préconise de développer l'économie circulaire, à l'opposé du modèle économique linéaire actuel, qui consiste à prélever, produire, consommer et jeter. L'économie circulaire consiste à faire des déchets des uns la matière des autres. Consommés puis recyclés, les déchets deviennent la matière première principale d'un nouveau cycle de production. Nos poubelles valent de l'or et la priorité doit être le recyclage, affirme ainsi le commissaire, qui se fixe comme objectif le recyclage de 70% des déchets municipaux, 80% des déchets d'emballage et 60% des déchets plastiques d'ici à 2030.
Cet objectif est-il atteignable par tous? Car on part de loin dans certains pays. Il suffit de voir les décharges à ciel ouvert et ses conséquences à Naples ou ailleurs en Europe.
Oui, on peut sérieusement douter que dans 15 ans et demi, notre système économique, encore largement centré sur le tout jetable, aura radicalement changé. Chaque année, les Européens produisent 2 milliards de tonnes de déchets, dont moins de la moitié sont recyclés, 42% pour être précis. Il est vrai qu'en Italie, selon les chiffres d'Eurostat, encore 41% des déchets collectés sont mis à la décharge, 20% incinérés et seulement 38% sont recyclés. À Naples, par exemple, si les déchets valent de l'or, c'est surtout pour la Camorra, la mafia napolitaine. Pour des prix défiant toute concurrence, la mafia débarrasse les entreprises du nord de l'Italie de leurs déchets, y compris dangereux, et les stocke en Campanie, la région napolitaine. Ils sont le plus souvent enfouis illégalement dans le sol, ça rapporte gros, et c'est bien moins risqué que le trafic de drogue.
Et en France, est-on plus vertueux ?
Ce n'est pas beaucoup mieux en France qu'en Italie, si ce n'est que dans notre pays, on brûle plus de déchets. Ainsi, dans l'Hexagone, le tiers des déchets est incinéré et 39% sont recyclés. Mais 28% terminent encore dans des décharges. Mais en fait, l'incinération n'est qu'un pis-aller. Malgré les précautions prises, notamment en installant des filtres dans les cheminées et des incinérateurs qui permettent de récupérer les poussières et les métaux lourds, l'incinération n'est pas la solution miracle pour se débarrasser des déchets. Non seulement les produits nocifs retenus par ces filtres sont autant de déchets solides qui ne sont pas recyclables, mais de plus, certains gaz extrêmement nocifs comme la dioxine partent dans l'atmosphère.
Alors Daniel, il y a quand même des pays très en avance pour le recyclage.
Ah, de loin, c'est l'Allemagne et l'Autriche. 65% des déchets en Allemagne et 62% en Autriche sont recyclés ou transformés en compost. Le reste est incinéré. Ainsi, en Allemagne, aucun déchet n'est mis à la décharge et en Autriche, seulement 3%. Les Néerlandais sont aussi assez exemplaires avec la moitié de leurs déchets recyclés, 49% incinérés et 1% seulement mis à la décharge.
Et quels sont les pays les plus à la traîne ?
Ce sont essentiellement les pays d'Europe centrale et orientale. Les ex-pays de l'Est ont pris de très mauvaises habitudes pendant la période communiste. La notion même d'environnement était alors inconnue et tous les déchets finissaient dans des décharges. Depuis, le recyclage n'est toujours pas vraiment une priorité. Même en Pologne, où la situation économique est la meilleure, 75% des déchets sont stockés dans des décharges. La lanterne rouge est la Roumanie avec 99%. Mais la Grèce ne fait pas beaucoup mieux avec 82% de déchets à la décharge et seulement 18% recyclés.
Mais finalement, techniquement, peut-on recycler tous les déchets aujourd'hui ?
Non, il reste certaines matières premières qui ne sont pas recyclables, mais le commissaire européen à l'environnement part du principe que si on s'en donne les moyens, on pourra demain recycler pratiquement tous les déchets. C'est donc un double défi économique et technologique pour l'Europe. Et cerise sur le gâteau, on estime que 580 000 nouveaux emplois pourraient être ainsi créés en Europe d'ici à 2030 pour en finir avec les déchets non recyclés. Si cela se réalise, on pourra enfin parler, Frédéric, à juste titre, de révolution verte.
Merci Daniel Vigneron, on se retrouve la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
À plus de deux mois du référendum écossais sur l'indépendance, les arguments s'affûtent, y compris dans les parties les plus reculées du royaume. Les îles Shetland, situées à 12 heures de ferry des côtes écossaises en face de la Norvège, s'interrogent. Certains des 23 000 Iliens se verraient bien rompre complètement les amarres, d'autres se rattacher directement à la couronne britannique. C'est le reportage sur place d'Olivier Hensgen.
À Lerwick, la capitale de l'archipel, les noms de rue rappellent un passé norvégien. St. Olaf Street, St. Magnus Street, la King Harald Street. On voit partout le drapeau local, synthèse des drapeaux scandinaves et écossais. Fort de leur exception culturelle, les Shetland ont milité et obtenu certains pouvoirs spéciaux, dans leurs négociations avec les compagnies pétrolières ou la gestion de leurs ressources halieutiques. Tavish Scott est le député des Shetland au Parlement d'Édimbourg. Il est fermement opposé à l'indépendance, mais il voit quand même certaines opportunités.
Les Shetland peuvent profiter du débat constitutionnel actuel pour réfléchir à leur avenir. Si on attend simplement que Londres ou Édimbourg le déterminent, ils ne nous prêteront aucune attention.
Une importante partie des réserves d'hydrocarbures en mer du Nord sont situées aux alentours des Shetland, une localisation qui leur donne un poids certain.
Des avocats internationaux sont à nos côtés pour donner les bases légales à nos revendications sur une partie des réserves, ce qui nous donne les opportunités de dire, pendant la campagne du référendum, ce que nous voulons, plutôt que de nous voir dicter des ordres par le gouvernement nationaliste d'Édimbourg.
L'autorité locale, le Shetland Highland Council, a fait le choix de rester neutre sur l'indépendance écossaise. Mais elle a lancé une campagne avec les deux autres grands archipels, les Orcades et les Hébrides, pour demander plus de pouvoirs locaux. Gary Robinson en est le leader.
Nous voulons nous aussi réenclencher le processus de décentralisation. Si des pouvoirs sont accordés à l'Écosse, ils devraient aussi être accordés aux communautés.
Le mouvement demande au gouvernement des compensations pour les activités pétrolières, mais également un contrôle plus étroit des fonds marins autour des îles et des revenus qui en découlent. Gary Robinson.
Salmon farms.
Les fermes de saumon, l'élevage de moules, les pipelines, les câbles, les énergies marines payent des redevances et nous pensons que les îles devraient recevoir l'essentiel de ces revenus.
The bulk of that income.
Preuve que la voix des îles porte en cette période, le comité des affaires écossaises du gouvernement britannique a proposé qu'elles reçoivent 80% des revenus des redevances. Le parti nationaliste au pouvoir à Édimbourg a lui surenchéri en proposant 100% en cas d'indépendance. La pêche représente le principal secteur d'activité de l'archipel. Sur le marché aux poissons, l'activité bat son plein. Fraîchement pêchés, recouverts de glace à grande pelletée, les poissons partiront bientôt à l'export. Arthur Williamson est pour l'indépendance écossaise, mais comme tous les autres, il en veut plus pour les Shetland.
Nous sommes une petite, très petite communauté de 20 000 personnes. On fait les choses à notre façon. On aimerait plus d'autonomie, mais pas une indépendance totale. Ce qui veut dire plus de contrôle sur la pêche, sur l'agriculture et sur ce qui se passe ici avec le pétrole.
John Goodlad travaille dans le milieu de la pêche. En 1987, il s'est présenté comme candidat au Parlement pour le mouvement des Shetland. Ce mouvement, aujourd'hui disparu, faisait campagne pour une plus grande autonomie pour l'archipel. John Goodlad ne sait pas encore ce qu'il votera, mais il savoure le débat.
Encore heureux que le mouvement des Shetland n'existe plus, parce que je pense que le débat aurait divisé ses membres. Je me sens très privilégié qu'on me demande ce que devrait être l'avenir de l'Europe. Je pense que c'est une campagne fantastique, qui suscite beaucoup d'intérêt. Par exemple, nous avons deux filles qui n'ont jamais été intéressées par la politique avant. L'une est passionnément pour le oui et l'autre pour le non.
Preuve supplémentaire de l'indécision des habitants des Shetland. Debbie Hodgson n'a pas non plus encore fait son choix, l'avenir de l'archipel est la première priorité de la jeune femme, mais elle exprime une opinion entendue ailleurs qui ne fait toutefois pas partie des options.
À l'heure actuelle, je suis très indécise. Je pense que je pourrais basculer d'un côté ou de l'autre si quelqu'un montrait plus d'intérêt pour les Shetland, sur ce que ça va signifier pour les gens ici. Mais mon opinion, c'est que si on pouvait rejoindre la Norvège, je voterais pour l'indépendance, dans la seconde.
Une pétition déposée auprès du Parlement écossais réclame l'organisation d'un référendum sur l'indépendance des Shetland après le scrutin écossais, voire même d'un rattachement au Royaume-Uni si l'Écosse devenait indépendante. Le texte a recueilli plus de 1000 signatures, probablement pas assez pour vraiment peser, mais suffisamment pour refléter le sentiment de singularité de ces Iliens. Le référendum sur l'indépendance écossaise a bien ravivé leur désir d'autonomie.
Petit éloge de la lenteur pour terminer Accent d'Europe dans la lignée du mouvement Slow Food qui veut damer le pion au fast food que l'on connaît trop. Les Grecs inventent une sorte de slow life. L'idée de sauvegarder certains modes de vie mis en péril par les rythmes de la mondialisation. Et ça commence par une visite d'Athènes tout en douceur avec Charlotte Stivenard.
Une quinzaine de personnes attendent le départ pour cette visite d'Athènes un peu particulière. Maria, la guide, distribue des calepins et des crayons. Pendant le tour, on pourra dessiner car il ne s'agit pas de tout voir mais plutôt de profiter de chaque endroit, explique-t-elle. La visite débute par le quartier d'Exarchia dans le centre. Cachée au détour d'une rue, une photo de Mick Jagger surplombe une vitrine. Mais à l'intérieur, c'est le bruit des ciseaux qu'on entend. Bienvenue chez Yorgos, 41 ans. Ce coiffeur s'est installé ici en 2007. Passionné de musique, il a acheté des instruments et ses habitués sont des artistes et des musiciens. Ils ne viennent pas seulement se faire couper les cheveux, ils viennent aussi surtout pour boire un café ou jouer ensemble. En somme, ils prennent leur temps. Un peu plus loin, pendant la balade, on passe dans la rue Zoodoroupillis, où on trouve plusieurs petits magasins de musique. Une échoppe discrète fait le coin, elle est spécialisée dans les violons. Pour Maria, ces petites boutiques vont disparaître, car prendre le temps de faire les choses n'est pas rentable, explique-t-elle. Surtout avec la restructuration en cours de l'économie grecque. Dans le slow group Tout le monde approuve, Athènes est parsemée de petites boutiques dans ce genre très spécialisées et souvent regroupées par quartier. Dans la même rue, on fait une halte dans une association qui a installé sa boutique en 2008. Ici, les gens viennent déposer ou récupérer des vêtements. Le tout gratuitement. Des bénévoles assurent les horaires d'ouverture. Là aussi, c'est un aspect du mouvement slow, changer la manière de consommer. Depuis la crise, les visiteurs sont plus nombreux. Ce qui était au départ une simple idée est devenu une nécessité, précise Maria. On quitte ensuite le quartier d'Exarchia pour aller vers Psyri, au pied de l'acropole, où se trouve le musée de la gastronomie grecque. Le slow, c'est aussi ça, préserver les traditions culinaires locales, comme le trarana, une soupe de blé et de lait, ou encore la fameuse huile d'olive grecque si douce. Des produits qui demandent du temps, loin de toute industrialisation. La plupart des endroits visités ne se revendiquent pas du mouvement slow, explique Maria. En Grèce, on parle plus généralement de décroissance. Ici, depuis la crise, elle est forcée, mais pas sûre qu'elle survive à la libéralisation à grand V de l'économie grecque.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur Facebook. À demain.